RCF. Suivons notre série d'émissions sur RCF autour de l'initiation chrétienne, des sacrements du baptême, de la confirmation avec le père Sébastien Guizioux. Et pour ce second numéro consacré à l'initiation chrétienne, faisons un peu d'histoire et regardons alors ce qui se dit dans le Nouveau Testament pour commencer quand on parle de l'initiation chrétienne, Sébastien.
Alors, le terme même, le mot « initiation chrétienne » n'apparaît pas, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on devient chrétien simplement par ce que l'on appelle le baptême. On peut penser ici, notamment, à la rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 38, vous rappelez, où après tout un itinéraire qu'ils ont fait ensemble, l'eunuque éthiopien et Philippe arrivent près d'une zone où il y a de l'eau, et l'eunuque éthiopien pose cette question à Philippe: qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc on voit bien qu'ici, la question, c'est celle du baptême, pas de l'initiation chrétienne en général, mais du baptême. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et donc, au premier temps de l'Église, on ne fait pas de distinction, si on veut, entre les rites d'initiation à la vie chrétienne, c'est-à-dire d'abord le rite de l'eau et puis ensuite le rite de l'huile. Non, il n'est pas question de cela dans les tout premiers temps, en tout cas les témoignages que l'on a dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Alors si on va au tout début de l'Église, on a un témoignage, celui de Saint Justin, on est au deuxième siècle.
Je vais vous lire ce témoignage de Saint Justin qui dit ceci dans sa première apologie. Il parle donc à ceux qui vont recevoir l'initiation chrétienne. Il dit « Nous vous exposerons maintenant comment, renouvelés par le Christ, nous nous consacrons à Dieu. Si nous omettions ce point dans notre exposition, nous paraîtrions être en faute. Ceux qui croient à la vérité de nos enseignements et de notre doctrine promettent d'abord de vivre selon cette doctrine. Alors, nous leur apprenons à prier et à demander à Dieu, dans le jeûne, la rémission de leurs péchés, et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. Ensuite, ils sont conduits par nous au lieu où est l'eau, et là, de la même manière que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régénérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père et le Maître de toutes choses, et de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit, ils sont alors lavés dans l'eau. » C'est intéressant de voir ce qui se passait au IIe siècle sur comment ça se passe quand on veut devenir chrétien. Eh bien, on apprend le contenu de la foi, on jeûne, et puis il y a un rite qui fait devenir chrétien, le rite de l'eau, avec, vous avez vu, cette mention du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors si on avance un peu dans l'histoire, on peut dire que finalement ces sacrements d'initiation chrétienne vont s'élaborer progressivement au début de l'Église. C'est par exemple le cas pour le catéchuménat.
Il faut attendre le IIIe siècle pour voir l'attestation d'un véritable catéchuménat. Chez Tertullien, par exemple, c'est l'époque, la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle. Chez Tertullien, dès qu'on est entré en catéchuménat, on doit changer de vie en devenant ce que lui, il appelle l'auditor. Le bain du baptême, c'est le sceau de la foi. Mais la foi du baptême commence par un acte de pénitence. Le premier baptême de l'auditeur est d'avoir déjà lavé son cœur avant le baptême. Et ici, je cite Tertullien: « Que personne ne se flatte, comme si du fait qu'il est compté parmi les jeunes recrues que sont les auditeurs, il lui était encore permis de pécher. Dès que tu connais le Seigneur, tu dois le craindre. Dès que tu regardes vers lui, tu dois le révérer. » Et ça évite la pratique magique du sacrement. Et dans un autre ouvrage de Tertullien, qui s'appelle le « De prescriptione », il reproche aussi aux hérétiques la confusion. Les hérétiques, ce sont ceux qui ne professent pas la vraie foi. Et Tertullien dit ceci: « Je ne dois pas oublier de décrire aussi la conduite des hérétiques. Combien elle est futile, terrestre, purement humaine, sans gravité, sans autorité, sans discipline, tout à fait assortie à leur foi. D'abord, on ne sait pas qui est catéchumène, qui est fidèle. Ils entrent pareillement, ils écoutent pareillement, ils prient pareillement. Lors même que des païens surviendraient, ils jetteraient les choses saintes aux chiens et les perles du reste fausses aux pourceaux. Les catéchumènes sont définitivement initiés avant d'être instruits. » C'est intéressant, parce qu'en fait, vous voyez, Tertullien, il est en train de dire que les hérétiques, ils mélangent tout. Et donc, on ne sait pas qui est catéchumène, qui est déjà baptisé, tout le monde a le même parcours. Voilà. Non, quand on professe la vraie foi, quand on fait partie de l'Église, eh bien non, il y a une distinction qui va permettre aux catéchumènes, finalement, de suivre un chemin qui va les amener jusqu'au baptême. Le baptême se fait progressivement, dans un ordre défini. C'est une sorte de pédagogie, dans le fond qui est utilisée pour qu'un chrétien devienne chrétien progressivement. Et le sommet, ce sera bien sûr le sacrement du baptême, avec aussi l'onction et l'Eucharistie, pour un nouveau départ dans la vie chrétienne.
Et c'est aussi à cette époque, au IIIe siècle, qu'on va se voir se développer les rites spécifiques par lesquels on devient chrétien, et on en a la trace grâce justement encore aux écrits de Tertullien.
Tertullien écrit vers l'an 200 dans son traité sur le baptême, et il décrit comment est-ce que ça se déroule. Il dit ceci: « Au sortir du bain salutaire, on fait sur nous une onction sainte, suivant l'ancienne cérémonie où l'on avait coutume de prendre de l'huile renfermée dans une fiole pour en oindre ceux que l'on consacrait au sacerdoce. C'est ainsi qu'Aaron fut sacré par son frère Moïse. C'est de même aussi que Jésus est appelé Christ, du mot crème, et ici je précise C-H-R-E accent circonflexe M-E, le crème, qui marque l'onction par laquelle Dieu le Père l'a rempli de son Esprit Saint, suivant ce qui est rapporté dans les Actes. Ils se sont véritablement assemblés en cette ville contre votre Saint-Fils que vous avez oint. Ainsi l'onction que nous recevons se fait à la vérité sur la chair, mais son effet se répand dans l'âme. De même l'action du baptême est extérieure, puisqu'il n'y a que le corps qui soit plongé dans l'eau, mais l'effet en est tout spirituel, puisque nous sommes purifiés de nos péchés. Après cela, on nous impose les mains en invoquant et attirant sur nous le Saint-Esprit par la prière qui accompagne cette sainte cérémonie.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec le Père Sébastien Guizou, nous faisons l'histoire des sacrements de l'initiation chrétienne. Alors, on est encore au IIIe siècle et c'est là qu'on va déjà voir apparaître un premier rituel du catéchuménat.
On en a le témoignage dans un autre ouvrage qu'on appelle la tradition apostolique et qui décrit à partir du chapitre 15 un rituel du catéchuménat et de l'initiation chrétienne, alors vers l'an 215 à peu près, et ça a lieu le plus probablement à Rome. On n'en est pas très sûr, mais c'est probablement à Rome. Et ce catéchuménat peut durer 3 ans. Je cite ici la tradition apostolique. Qu'un catéchumène soit instruit pendant 3 ans. Cependant, si quelqu'un est zélé et persévère bien dans cette entreprise, qu'on ne juge pas d'après le temps, mais d'après la conduite. Oui, déjà, ça, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça aussi. Bien sûr, il y a un temps qui est prévu pour le catéchuménat. Mais, voilà, si quelqu'un a déjà fait tout un chemin, eh bien, on va adapter en fonction de son parcours. Et puis, je lis la suite. Quand le docteur, c'est-à-dire celui qui enseigne, quand le docteur a terminé son instruction, que les catéchumènes prient à part des fidèles. Quand ils ont fini de prier, qu'ils ne se donnent pas le baiser de paix, car leur baiser n'est pas encore pur.
Il faut aussi dire, et c'est intéressant parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui sont catéchumènes reçoivent les sacrements de l'initiation chrétienne lors de la vigile pascale. Et au IIIe siècle, c'était aussi un peu ça, la fin du parcours, on peut dire.
En effet, il y a une sorte de sommet qui se vit dans la vigile. Vigile probablement pascale, quelquefois c'était à d'autres moments, hein. Mais voilà, le plus souvent c'est quand même à Pâques, où les catéchumènes sont baptisés dans un lieu à part de l'église, ça c'est intéressant aussi, un autre lieu qu'on appelle le baptistère, hein, qui est différent de ce que nous appelons les fonts baptismaux, qui sont, vous savez, cette cuve qui est à l'entrée de l'église. Le baptistère, lui, est un autre bâtiment qui a été construit à côté de l'église, hein, le baptistère. Après le bain d'eau, un presbytre, c'est-à-dire un prêtre, les oint de l'huile d'action de grâce avec une parole christologique, puis il se rhabille et entre dans l'église. Là, l'évêque leur impose la main en disant « Seigneur Dieu, qui les a rendus dignes d'obtenir la rémission des péchés par le bain de la régénération, rends-les dignes d'être remplis de l'Esprit-Saint et envoie sur eux ta grâce ». Afin qu'ils te servent suivant ta volonté, car à toi est la gloire pour les siècles des siècles.
Et dans ce rituel, on va voir aussi l'onction d'huile et son importance.
On voit justement à ce moment-là qu'il y a des rites qui vont s'adjoindre au rite essentiel qui est le rite de l'eau. Et notamment, comme vous venez de le dire, le rite de l'huile, une onction d'huile. Et donc, quand ils entrent à ce moment-là dans du baptistère, donc à l'église, c'est l'évêque qui les accueille et qui fait une onction d'huile sur les catéchumènes, une onction d'huile accompagnée d'une formule trinitaire. Alors, je dis les catéchumènes, ils sont baptisés, en fait, hein, à ce moment-là. Et après les avoir signés au front, il leur donne le baiser de paix. Puis vient ensuite la célébration de l'Eucharistie. Alors la tradition apostolique présente, et c'est ça qui est intéressant ici, des rites post-baptismaux qui sont développés. Il y a 2 onctions, donc avec l'huile sainte, le Saint-Crème, donc une onction qui est faite par le prêtre et une autre onction qui est faite par l'évêque. Il y a aussi une imposition de la main avec une demande épiclétique, c'est-à-dire une demande, on demande au Père d'envoyer son Esprit-Saint sur le nouveau baptisé. Il y a aussi une signation avec la croix et le baiser de paix, et le tout couronné par l'Eucharistie. Ce rituel, on peut dire qu'il se présente comme une unité différenciée. Il forme une unité parce que tout se passe au cours d'une même vigile, et il n'existe pas de terme spécifique pour désigner les rites post-baptismaux, l'onction, le vêtement blanc, le rite de la lumière. Et il y a aussi une certaine différenciation qui apparaît dans cet ensemble et qui comporte un changement de lieu. Du baptistère, on va à l'église. Et il y a aussi une intervention plus forte du ministre épiscopal dans les rites post-baptismaux. À cette époque, les rites se déploient dans le temps, donc, pour permettre aussi aux catéchumènes d'affermir progressivement leur foi et leur vie morale.
Je t'aime tant, tu as dit oui à mes yeux. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le jour, la nuit.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec le Père Sébastien Guizioux, nous faisons un parcours historique autour des sacrements de l'initiation chrétienne. On est maintenant au 4e siècle et il se passe quelque chose d'important. On peut dire que les chrétiens sont de plus en plus nombreux et il n'est plus possible de maintenir ces pratiques. C'est intéressant de regarder ce qui va se passer justement à partir du 4e siècle.
C'est ça qui est intéressant dans la vie de l'Église, c'est que les choses bougent. Toujours à partir des pratiques. Les choses bougent à partir du terrain, du plus concret. Voilà. Ce n'est pas une décision qui a été prise comme ça. C'est la réalité qui a fait qu'on était obligé de s'adapter. Et c'est le cas pour l'initiation chrétienne. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent au christianisme que l'évêque ne peut plus procéder à l'initiation de tous les catéchumènes dans la nuit de Pâques, il y en a trop. Même si on baptise aussi à l'Épiphanie, en Orient, et à la Pentecôte en Occident. Et c'est à cette période-là aussi que les deux grandes régions de l'Église vont s'orienter dans des voies différentes. Et ça, c'est toujours valable aujourd'hui. Et ça dure depuis le 4e, 5e siècle. L'Orient va tenir à l'unité de l'initiation chrétienne, et pour la maintenir, il déléguera entièrement aux presbytres, c'est-à-dire aux prêtres, qui deviendront un peu comme des mini-évêques locaux. Et l'Occident acceptera que les presbytres, les prêtres, donc baptisent et célèbrent l'Eucharistie, mais il voudra garder le lien de l'initiation chrétienne avec l'évêque, et en particulier pour les rites post-baptismaux. On les remet donc à plus tard, lors d'une rencontre avec l'évêque.
Et on trouve dans l'histoire de l'Église un témoignage de cela, c'est au 8e siècle.
On a un témoignage de cela dans le Sacramentaire de Gélone, qui est un livre liturgique de la fin du 8e siècle, et qui dit ceci. Si l'évêque est présent, c'est-à-dire présent pour le baptême, il convient de confirmer de suite avec le crème et puis de communier. Et si l'évêque n'est pas présent, avant que l'enfant ne soit allaité ou qu'il ne prenne quelque chose après le baptême, il sera communié au corps et au sang du Seigneur. Donc c'est intéressant parce que finalement, quand l'évêque est présent, eh ben, il va tout de suite donner l'onction et puis l'Eucharistie, même pour un tout petit. Voilà, une parcelle d'hostie consacrée ou une petite goutte de sang du Christ qu'il mettra sur la langue. Donc l'unité des sacrements est gardée si l'évêque est là. Mais il y a encore un autre aspect qui va faire que les choses vont bouger, c'est l'écart des pratiques entre le milieu urbain et la campagne.
Et donc là encore, c'est une évolution que vous allez nous évoquer. C'est important, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est finalement la réalité, les pratiques qui font bouger les choses du côté des sacrements.
En effet, dans les villes épiscopales, on a continué encore longtemps la pratique du baptême à Pâques, en présence de l'évêque qui confirme et qui donne l'Eucharistie aussitôt. Mais dans les campagnes, le baptême se rapproche de plus en plus du moment de la naissance. Et il est toujours accompagné d'une première communion. Quant à la confirmation, elle est remise à plus tard. Soit les parents vont présenter leur enfant à l'évêque, soit l'évêque passe pour, quand il fait une visite, par exemple, des paroisses. Et quand l'évêque passe, eh bien, il donne la confirmation.
Alors, encore une autre évolution dans l'histoire de ces trois sacrements d'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie. Dans un certain nombre de lieux, progressivement, ces sacrements vont être autonomes, on peut le dire.
Baptême, confirmation, Eucharistie vont progressivement devenir autonomes, en effet. Et on peut noter déjà qu'à partir du VIe siècle, les baptêmes d'adultes se raréfient au point de devenir minoritaires. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les adultes ont été baptisés voilà, à l'âge adulte et qu'ils ont voulu aussi que leurs enfants, finalement, soient baptisés le plus rapidement possible. Il faut savoir que dans l'histoire du christianisme, et dès les débuts, le baptême était lié surtout à la conversion de familles entières, ou de maîtres qui avaient des maisons où il y avait aussi des esclaves, etc. C'est toute la maison qui se convertissait quand le maître se convertissait. Et donc tout le monde recevait le baptême, qu'on soit enfant, bébé, adulte, voilà, tout le monde recevait le baptême. Et progressivement, dans le fond, tous ces bébés aussi, ben voilà, sont devenus chrétiens, et le baptême des adultes, dans le fond, a diminué. Alors qu'est-ce qu'on va faire du point de vue de la ritualité? Eh bien, on va réviser l'ancienne discipline baptismale des adultes et on va l'adapter aux enfants en rapprochant les rites catéchuménaux qui autrefois étaient très déployés dans le temps. L'assignation avec le signe de croix sur le front, l'onction d'exorcisme, la délivrance du mal, les scrutins, le baptême en lui-même. Et finalement, tout ce qui se passait, des rites qui étaient déployés durant des mois et des mois, vont être progressivement ramenés de plus en plus, ils vont être de plus en plus proches et quelquefois ramenés même dans une seule et même célébration.
Et on va voir ça notamment à partir du 8e siècle.
Oui, c'est tous ces rites pré-baptismaux, ceux du catéchuménat des adultes, vont être ramassés et devenir le rite même du baptême en lui-même. Et lorsque la pratique du baptême, qu'on va appeler le baptême quam primum, c'est-à-dire le plus rapidement possible après la naissance, va s'implanter au 9e siècle, eh bien cette pratique, bien sûr, va s'accentuer. Et à la fin du premier millénaire, la liturgie romaine va se trouver en possession d'un rituel de l'initiation chrétienne hybride, on pourrait dire, regroupant en une seule célébration les rites qui étaient destinés au départ à être distribués dans le temps.
Et puis, alors, on va faire un grand bond dans le temps pour continuer justement d'évoquer ces sacrements de l'initiation chrétienne. 1614, c'est une date importante puisque paraît un nouveau rituel de l'initiation chrétienne.
Au XIIIe siècle, le concile de Latran IV, donc en 1215, va demander que l'on recule l'âge de la réception de l'Eucharistie. Et là encore, vous voyez, on parlait tout à l'heure des sacrements qui deviennent autonomes, ça va être lié à l'âge aussi et aux décisions pastorales qui vont être prises. Et Latran IV va reculer l'âge de la réception de l'Eucharistie à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Peut-être que les filles étaient plus mûres, hein, sûrement à l'époque. Peut-être aujourd'hui encore, d'ailleurs. En tout cas, l'ordre de réception devient baptême, confirmation en même temps, ou quasiment en même temps, et Eucharistie beaucoup plus tard.
Alors, 1614, maintenant, ce nouveau rituel de l'initiation chrétienne.
Après le concile de Trente, donc 1614, un nouveau rituel de l'initiation chrétienne, qu'on appelle le rituel de Paul V, est édité, mais étonnamment, il omet d'indiquer quelles étaient les étapes à répartir dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté à cette époque-là de retrouver le catéchuménat antique, avec des étapes qui préparent justement vers le baptême. Mais ce rituel-là n'indique pas comment elles étaient réparties dans le temps. Et il s'ensuit que s'il y avait des adultes qui demandaient le baptême, le catéchuménat probablement se réduisait à une catéchèse préparatoire au baptême.
On peut dire qu'à partir du XVIIe siècle, et puis les plus anciens de nos auditeurs s'en rappellent, eh bien la première communion va devenir aussi un événement important au niveau familial, etc.
En effet, oui, pour les enfants, la première communion va devenir un événement très important, familial, public, auquel on associe la première confession. Et en 1910, le pape Pie X va insister pour que les enfants puissent communier dès l'âge de 7 ans, l'âge de raison. Et cette pratique va devenir la première communion qu'on va appeler la communion privée, alors que l'autre communion va garder son éclat, celle, vous rappelez, pour les 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons, qui était un grand événement, hein, l'événement de la première Eucharistie. Eh bien, on va garder cette dimension solennelle en l'appelant justement la communion solennelle, mais qui n'était plus la première Eucharistie, voyez, et le nom va perdurer quand même, et on va l'appeler improprement, on pourrait dire, la communion privée, hein, parce que la communion, elle inscrit dans la vie de l'Église, mais c'est comme ça qu'on l'a appelée. La première communion va devenir la première communion, la communion privée. Et d'une manière générale, l'ordre des sacrements va devenir baptême, confession, eucharistie, confirmation. Vous voyez, donc encore, ça va se déployer, ça va s'étirer, on pourrait dire, dans le temps.
Et pour achever cette émission, c'est peut-être intéressant aussi, de, si on regarde ce rituel de 1614, de voir qu'il va y avoir du progrès du côté du baptême des petits-enfants. Expliquez-nous pourquoi.
Le rituel de 1614, qui est le rituel du baptême des petits-enfants, est un vrai progrès parce qu'il n'existait pas jusqu'alors un rituel propre aux enfants. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'était un rituel avec des étapes qui étaient au départ destinées aux adultes, qui avaient été compilées pour en faire un rituel pour les enfants, mais finalement c'était assez hybride. Et la grande nouveauté, c'est qu'en 1614 paraît un rituel propre aux enfants. Mais en même temps, on gardait des formules de l'autre rituel pour les adultes, des prières, en faisant intervenir les parrains et les marraines pour répondre à la place des enfants.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette émission. Nous avons fait un long chemin dans l'histoire autour de ces sacrements de l'initiation chrétienne. Et lors de la prochaine émission, nous ferons un grand bond dans le temps puisque nous irons du côté des années 1960 et du Concile Vatican II et ce que le Concile aussi a proposé du côté des sacrements de l'initiation chrétienne. Sébastien Guizioux, merci et à très bientôt.